première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Boîte noire, qu'est-ce qu'on peut voir de vous ?
Ben, le film Maraudeur, c'est mon premier film, qui fait 12 minutes, qui est un portrait de mon grand-père à travers la photographie qui est devenue mon métier. C'est un film avec des images animées, des images fixes. J'ai mélangé le récit est animé et j'y ai intégré des œuvres de mon travail personnel de photographe en noir et blanc.
Le musée de la photographie est Charleroi ? Jusqu'au 22 avril, avec entre autres, Boîte noire, Bénédicte Loyenne.
La voix raconte l'enfance, la rencontre en creux avec mon grand-père qui est décédé quand j'avais 9 ans. Elle raconte mon goût de la photographie, mon désir de photographier, de laisser des traces, des personnes, des lieux, des climats, des atmosphères. Le thème, c'est plutôt la photographie, l'enfance, la mort.
La lumière et les choses, Marc Triffier. Et prix national photographie ouverte, Brigitte Grignet. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, au cinquième.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
authentique me tente comme tente un tonstelli.
Le monde invisible.
Avec Christelle Rousseau, Georges Vercheval, Bénédicte Loyenne et Brigitte Grignet. Et rencontre Marc Triffier, printemps 2011. Avec les voix de Jacques Socher, Harry Mandelbaum, Charles Simkovitch et Marc Triffier. Musée de la photographie à Charleroi jusqu'au 22 avril, par Thierry Genico. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Mon grand-père m'a offert mon premier appareil photo quand j'étais toute petite. Donc c'est une des premières personnes que j'ai photographiées. Et j'ai senti quand je le photographiais déjà que je faisais pas une bête photo, quoi, que je faisais attention à cadrer, qu'il soit beau dedans. Il s'était habillé avec un costume pour ne pas salir son... Enfin, pour ne pas salir justement son... Comme le monsieur là-bas est toujours en costume. Pour ne pas se salir, il avait mis une espèce de combinaison bleue de travail. Il avait une échelle, il était... Pour ne pas se tacher avec le noir, le jus des murs, qui est quand même assez terrible. Et c'était l'équipement, et ça me faisait trop rire, quoi, cette façon sérieuse. Et il posait, moi je voyais déjà, je trouvais déjà, c'était très drôle, j'avais déjà mon humour. Donc je le voyais déjà, je trouvais ça trop drôle, cette espèce de cette chose, comment il s'était apprêté. Et lui, il était très digne et très sérieux, parce qu'il était d'une autre époque, donc une photographie, c'était une photographie, quoi, il fallait bien se présenter. Voilà, j'ai commencé comme ça. Ensuite, bon, après, je suis devenue actrice et j'ai fait mes études au Conservatoire de Liège, ensuite à la Robe Blanche à Paris. Mais j'ai toujours photographié. J'ai toujours fait des photos. J'en ai un peu plus fait quand j'étais mannequin, parce que j'ai beaucoup voyagé. J'ai côtoyé beaucoup de photographes qui m'ont aidé aussi dans ma façon d'opérer, si je puis dire. Je faisais plutôt des photos de rue, pas du tout des photos de mode. Hein. C'est plutôt les gens, l'humain qui m'intéresse. J'ai continué comme ça, puis j'ai appris le labo argentique. Et c'est comme ça, une fois que j'ai commencé à tirer mes propres images, que la moitié du travail se fait là. Donc c'est comme ça que j'ai un peu grandi là-dedans.
Et aujourd'hui ?
Aujourd'hui ? Aujourd'hui quoi, aujourd'hui ?
Faites-vous ?
Alors, je suis toujours actrice, même si je travaille moins dans ce domaine-là. Je travaille beaucoup plus en photographie, j'expose. Et je suis depuis 3 ans effectivement plus tournée vers le cinéma. Donc là c'est ma première réalisation, mais j'en ai fait 5. Et la dernière étant un film sur la passion humaine, qui a été diffusé pendant 3 mois à la crypte moderne au centre d'art sacré de la cathédrale Notre-Dame de la Treille de Lille. C'est un thème général sur la passion qu'on a demandé à une dizaine d'artistes contemporains d'intégrer cette exposition permanente. Et c'est une sorte de commande qu'on m'a demandé. On m'a demandé un film. Et donc j'ai fait ce film qui dure 22 minutes avec le même principe, une voix tout du long qui est dite par Denis Lavant, l'acteur. Denis Lavant.
Boîte noire, Bénédicte Loyenne.
Les 9 dixièmes des artistes ont fait sur la passion du Christ et moi j'ai fait sur la passion humaine. J'ai plus de... En toute modestie, j'ai plus de connaissances sur la passion humaine que sur la passion du Christ. Enfin, c'est un sujet qui m'a plus... qui m'a plus porté.
Et la passion humaine, c'est pas que la passion amoureuse.
Je l'ai traité... Moi, c'est la passion amoureuse. C'est la passion amoureuse. Oui, c'est l'humain, quoi. Il s'appelle The Flesh of Passion. C'est la chair de la passion.
Et rappelez-moi votre nom.
Bénédicte Loyenne. Loyenne.
Loyenne.
Loyenne. C'est d'origine flamande. Mais mon nom de photographe, sinon, c'est Ben Loy. Voilà.
Une image plus récente. Je suis partie en Roumanie. Je travaillais un petit peu sur l'Europe de l'Est. Récemment, c'est un travail que je n'ai pas encore eu vraiment le temps de mettre en forme. Et donc, je me suis dit que c'était bien aussi peut-être de montrer des choses, enfin l'évolution. Puisqu'au final, je pense que ce qui compte, bah, c'est le regard qu'on a sur le monde et que ça vienne d'un projet ou l'autre, quelque part, il y a quand même toujours...
La même écriture, voilà. Même si le paysage est
c'est
différent.
C'est ça, c'est ça. Puisqu'au final... Bien sûr, l'endroit, c'est important, les gens... Je ne travaille que sur du réel. Je ne travaille pas du tout de façon conceptuelle ou de mise en scène, rien du tout. Je pense que le réel en lui-même est déjà tellement extraordinaire qu'on n'a pas besoin de créer encore quelque chose d'autre. Et au final, je pense que les images nous ramènent toujours quelque chose de personnel, d'intime, même quand on est connecté à ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, il faut aussi qu'il y ait une connexion qui se fasse à l'intérieur. Et je pense qu'au final, c'est toujours ça qui est un peu magique. On voit que ça fonctionne ensemble.
C'est quoi sa photographie ouverte ?
En fait, c'est le nom de la toute première association, la première ASBL créée par Georges Vercheval et qui ensuite est devenue le Musée de la photographie. Et donc, c'est le nom qui a été conservé pour l'organisation du concours, dont c'est la 17e édition. La toute première édition ayant été organisée à la fin des années 70. Et donc, c'est un concours qui n'a pas varié dans sa thématique, c'est-à-dire que justement, il n'y en a pas.
Prix national photographie ouverte, Brigitte Grignet.
La photographie, c'est incroyable parce que ça nous ramène vraiment à ces moments... Une jeune fille qui se trouve sur un mur de briques juste derrière elle, il y a le canal de Tchakao. Elle est avec un chien et il y a pas mal de vent, donc on ne voit pas son visage. Elle a un mouvement comme ça et sa jupe qui se soulève un peu, moi, ses cheveux qui volent au vent. L'enfance, quoi.
Les deux seuls critères, c'est d'être belge ou d'habiter en Belgique depuis un certain temps. Et le deuxième, c'est de présenter un travail cohérent. Donc pas une seule photographie coup de chance, mais vraiment un regard, un travail développé qu'un jury de professionnels de la culture et de la photographie visionne et sélectionne.
Elle est prête à sauter ?
On espère que non, parce que là-bas, l'eau est froide et... Les courants sont quand même assez forts, donc non, elle est tournée vers l'intérieur, je pense pas. Les enfants là-bas, ils ont... C'est pas comme ici, ils ont pas 10 000 jeux. Donc, quelque part, de par leur ennui, parfois, ils s'amusent de choses plus simples. Donc, je sais pas, je ne connais pas cet enfant, on ne sait pas parler. Voilà, j'étais juste spectatrice... de ce moment-là.
Quand vous dites « le réel me donne tellement », faites-vous une démarche documentaire ?
Je pense que oui, parce que je ne traite que le réel, que le monde qui existe. Après, je ne fais pas de photojournalisme. Ce qui m'intéressait, c'était les gens.
Tous les styles et tous les genres sont possibles, tous les thèmes. Ça peut être une photographie plutôt reportage, presse. Ça peut être une démarche artistique. Ça peut être une démarche plasticienne qui utilise la photographie. Donc vraiment, c'est ouvert à tous les genres. C'est vraiment la cohérence du travail et la qualité du regard qui est primée. Et donc là, nous avons eu 269 envois. 18 lauréats, et parmi ces 18 lauréats exposés, nous remettons 6 prix offerts par le musée et par des partenaires du musée qui soutiennent le prix déjà depuis de nombreuses éditions.
Je trouve que parfois je suis un peu à la limite. Je sais que pour certains magazines, je ne suis pas assez... Ils considèrent que ce n'est pas assez... je ne sais pas si documentaire est le mot, mais... Est-ce que c'est du reportage? Est-ce que c'est quelque chose qu'on met en galerie? En galerie, alors du coup, je ne suis pas assez conceptuelle. Et je trouve ça un peu dommage, ces frontières qu'on crée. Et pourquoi? Parce que tout ça, c'est la vie. Et je trouve que c'est important de voir ça aussi, parce que, voilà, comme je disais, dans les médias, on voit souvent tout ce qui est sensationnel. Je ne sais pas si on devient un peu blasé aussi avec ça, mais ce qui est important, c'est voilà, la connexion qu'on peut avoir aux autres.
Et le prix de la ministre de la Culture a été attribué cette fois-ci à Brigitte Grignier, voilà, qui est là.
Précédemment, on faisait ça de façon très physique, puisque les participants étaient amenés à envoyer un dossier papier avec le travail proposé. Et donc, on déballait le tout, on mettait sur des tables, ça prenait des mètres et des mètres et des mètres dans le musée, et ça faisait souffrir le dos des membres du jury. Donc, cette fois-ci, on est passé dans l'ère numérique. Il y a une présélection qui a été opérée à distance par les membres du jury, donc sur base des dossiers qui avaient été envoyés numériquement par les photographes. Et puis, sur base de cette présélection, le jury réuni cette fois au musée a sélectionné les 18 lauréats et à l'intérieur de ça les 6 primés, donc sur base d'une projection des envois. Christelle Rousseau, directrice adjointe au musée.
Georges Vercheval, c'est vous qui avez trouvé ce nom de photographie ouverte?
Oui, absolument. Oui. Pourquoi, comment? C'est au tout début du musée de la photographie, c'était avant le musée de la photographie même, pour bien montrer dès le départ que la photographie ce n'est pas que ceci ou que cela, ce n'est pas que le reportage, ce n'est pas que la fine art photography, hein, ce n'est pas que la construction d'images fabriquées, on a toujours fabriqué des images, non, il fallait que ce soit ouvert.
Portrait de gens très célèbres et puis portrait de gens outsiders.
Oui. Oui, ben, revenir vers l'humain, hein, que quelqu'un soit connu ou pas, finalement.
Et dont beaucoup sont morts.
Oui, en effet.
C'est un travail des années 80.
Des années 80, et c'est ça qui l'a fait connaître. Il était assez jeune, hein, quand il a réalisé ce travail-là. Ce qui était quand même assez courageux, hein, de pouvoir aller chez Robert Franck. Dire, ah, ben, voilà, moi, je suis un petit quête belge. Est-ce que je peux prendre votre portrait? Enfin, c'est quand même pas rien.
Photographie ouverte, ça me permettait de tout faire.
Oui, ça me fait penser à Umberto Eco, l'œuvre ouverte.
Ah, j'aime beaucoup Umberto Eco.
C'était l'époque des années 70 où on parlait d'un univers en expansion.
Oui, moi j'aime bien Umberto Eco aussi bien comme journaliste que comme écrivain, que comme penseur, que comme... J'ai voulu l'avoir un jour pour une conférence, mais trop cher.
Dans les années 80, je crois, juste après le colloque sur la séduction que j'avais avec Maurice Hollander, j'ai été contacté par Delvoye, à l'époque était directeur, qui m'a demandé de donner un cours à Lacan, j'ai fait ça 2 ans, et j'ai eu comme élève Marc Trivière, personnage tout à fait étonnant, et qui m'a montré, je lui ai acheté à l'époque une série de photos que je ne pourrais plus faire maintenant, heureusement pour lui, c'est hors prix, et j'étais très frappé par cette assève, enfin, qu'il y a chez lui. Et alors, il était pris, ce garçon qui a l'air timide, d'une audace folle. Il arrivait chez Bacon, il dit, me voici, l'autre me voilà. Hop. Et puis, il photographie des vaches assassinées dans des abattoirs. Et puis il me demande l'adresse de Michaud, que j'avais, sans l'avoir jamais vu, hélas, Michaud. Et il est allé glisser en dessous de la porte de Michaud ses photos d'abattoir. Michaud l'a absolument immédiatement appelé. Je crois même qu'il a échangé des photos contre des dessins. Mais il m'a dit, tu ne mourras jamais. Jamais. Tu me photographieras. Et puis, il a rencontré comme ça Borges. Il était en Argentine, photographier un aveugle. Enfin bon, et incroyable. Une série, bien sûr, d'écrivains. Il va, par exemple, jusqu'en Autriche. Il prend des trains, des bus, il marche à pied. Là, il va à 7h du matin chez Thomas Bernhard. Il sonne à la porte, l'autre livre, qu'est-ce que c'est ce truc? Je viens de Bruxelles, où il fait une photo. Là. Il va voir René Char, qui tire la gueule, qui n'a l'air pas l'air content qu'on le photographie. Enfin bon, c'est inouï. Mais aussi des inconnus. Et non, plus spécialement des gens d'un asile d'aliénés. Et là, il m'a raconté une expérience étonnante. C'est que c'était catatonique, des gens qui ne parlaient plus depuis 2 ans. Et quand ils étaient en présence de leur portrait, ils se remettaient à parler. Et là, c'est des psychiatres qui avaient demandé qu'ils fassent des photos. Qu'ils mélangent aussi bien les connus que les soi-disant fous, que des paysages maintenant, que des abattoirs, avec toujours un bord noir comme ça qui est typique de lui. Et un jour, je me rencontre dans un train, il revenait d'Italie, moi de Strasbourg. Il avait été voir Antonioni, qui a refusé. Il a dit, je suis pas encore mort. Parce qu'évidemment, il y a quelque chose de peut-être pathologique dans ces photos. Les gens sont fixes. On voit l'iris complètement coincé. Enfin, Bernard Noël crucifié. Bram Van Velt. Vous voyez ces photos magnifiques.
Marc Trivier, je rencontre 3 hommes que vous avez photographiés. Jacques Socher, Harry Mandelbaum et Charles Simkovitch.
Nicolas ? Oui, mais Jérémy, c'est la musique est près de toi ? D'où elle vient la musique ? Comment ? C'est un appareil qui est près de toi ?
Qui me montre d'ailleurs les photos que vous avez faites de lui.
Mais je n'avais pas entendu le genre.
J'ai sorti de mes archives des photos faites par Trivier dans l'atelier que j'avais à l'époque dans la maison de mes parents. Ceci date de 1980. Ça, c'est dans un autre atelier que j'ai eu à Charleroi. Ça doit dater de 81, je crois. 80-81.
À l'Académie. C'est Jacques Socher qui me parle dans les années 80 de vous. Vous êtes étudiant à la Cambre. Et vous lui montrez votre travail.
Là, c'est pas lui qui a pris la photo, mais il est sur la photo. C'est Léo Ferré qui était venu voir une de mes expositions à Bruxelles. Ça date de 84. Donc vous voyez là, la tête qu'il avait, il était tout jeune, hein, il devait avoir 15 ans, aux alentours de 15 ans là. Quand est-ce qu'il est né encore, notre ami Marc ?
Vous avez quel âge, monsieur ?
50. Ah,
plus heureux que moi. Et moi, quel âge j'ai ? Je ne pas. Ça, ils sont partis tellement que j'ai travaillé avec
51.
Non, ouais. 77. Bon. Je ne dirais pas, hein. Mais je suis un bricoleur et tout et tout.
Moi, j'ai connu Marc Trivier vers 77-79. Je crois pouvoir dire au moment où il commençait à... Je ne sais pas s'il était encore aux études à la Cambre ou s'il allait terminer. Et c'est le moment où il s'intéressait au portrait et où il a véritablement commencé son itinéraire dans le monde. Donc il a commencé par la Belgique, quoi. Avec ses proches, oui. Et c'était un moment, dans ces années-là, où j'avais organisé une exposition qui s'intitulait « Parallèle » avec mes amis artistes flamands, c'est-à-dire Octave Landeut, Jan Bursens, Yves Raillé et José Vermersch. Et il est allé les photographier à ce moment-là aussi, quoi.
Et pourquoi vient-il vous voir, vous ?
Je n'en sais rien. Je n'en sais rien.
Et rencontre Marc Trivier, printemps 2011.
Qui était plus vieux dans sa tête que son visage, quoi. Et on pourrait même dire à l'inverse, actuellement, il est plus jeune dans sa tête que l'âge qu'il a.
Alors Marc Trivier, on est tout proche au départ dans ces années 80, tout début des années 80.
Marc Trivier, je l'ai fort, fort bien connu, perdu de vue par moments, retrouvé toujours.
Georges Vercheval.
Je l'ai eu comme élève à la Cambre, au moment où j'étais professeur à la Cambre, et où il y avait une sélection avant qu'on ait les élèves. Pierre Cordier m'avait d'ailleurs assisté pour cette sélection, et ça a été un curieux moment, parce que il y a plein de gens qui sont intéressants, on en prend, on est limité à la Cambre, on doit se limiter, on prend une dizaine d'étudiants, pas plus, 12 parfois. Et on a vu Marc Trivier passer, on l'a questionné, tout, on l'a pas sélectionné. Et le soir, je téléphone à Pierre Cordier. Il dit, je me demande si je ne devais pas te dire la même chose. Oui, je dis, je crois qu'on aurait dû quand même. Tu te souviens, le jeune gars là-bas qui... C'était Marc Trivier. On n'a jamais regretté, évidemment. Hein? En même temps, il a été mon élève pendant quelques années, mais je n'ai jamais eu à lui apprendre quelque chose. Marc Trivier savait déjà tout ce qu'il voulait dire. C'est ça qui m'a étonné, parce que tout jeune, il était vraiment très jeune, le plus jeune de la classe peut-être, il avait déjà cette certitude de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il voulait dire. Il a commencé tout de suite.
Donc, c'était un lecteur.
Oui.
Un lecteur.
Oui. Il connaissait des gens que la plupart des étudiants de la classe, et peut-être même des professeurs, ne connaissaient pas. Et il a voulu aller les voir, il est allé les voir. Peut-être que son extrême jeunesse, justement, parce qu'il paraissait, je vous dis extrême, il n'était pas si jeune que ça, mais il paraissait jeune. Il paraît toujours. Hein? Peut-être que cette jeunesse-là a étonné ceux à qui il demandait de pouvoir les photographier et que ça a aidé à ce qu'ils puissent le faire. Parce que je sais que bien de ces artistes, écrivains qu'il a rencontrés ne se laissaient pas facilement approcher. C'est étonnant, non ?
C'est un type formidable. On s'est un peu perdu de vue, mais on est toujours en contact et on a encore parlé récemment. À peu près, oui, je me souviens de l'endroit précis en tout cas. De l'endroit précis dans cet atelier à Charleroi à ce moment-là. Mais comme il le dit lui-même, la photographie, enfin du moins quand elle est à ce degré d'intensité, c'est un instant qui n'existe plus après, quoi. C'est assez tragique. Hein.
Vous connaissez les chevaux ? Un étalon, il est entier, d'un pur sang. C'est une voiture de course. Il est sauvage.
Il a un cheval qu'il a appelé Kafka. Il a une écurie pour le cheval avec une musique. Il a testé des musiques qui conviennent au cheval, qui ne montent pas parce qu'il laisse une bête à l'état sauvage ou un grand pré. Pour gagner sa vie, il est maçon. jardinier. Et donc c'est quelqu'un de tout à fait inactuel, de un sauvage cultivé, très radical, très passionné, très... Si j'ose dire, ce n'est pas qu'un photographe. Et la photo devient quelque chose de très littéraire, de très pensé. C'est une pensée du visible. Bon, c'est quelqu'un de... La rigueur d'être inactuel.
Voilà, c'est bon.
C'est vieux pour un cheval ?
Non. Non, surtout que lui est resté un peu infantile.
Vous ne le montez pas ?
Non. Je suis pas cavalier. Je vis avec lui.
Parlait-il de sa démarche déjà qu'il faisait étudiant ?
Il en parlait peu. Marc Trévy a toujours peu parlé. C'est un taiseux. Je ne me suis d'ailleurs pas étonné des années après, quand je l'ai retrouvé, il me dit « Tu sais, je ne suis plus photographe à part entière, je suis sylviculteur. Je me sens tellement bien dans les arbres. » Il s'occupait d'arbres. C'est... Bon, la nature, il a construit des choses aussi. Il a été maçon, je crois. Ça, je ne suis pas tout à fait sûr, mais quand je vois ses mains, qui ne sont plus du tout les mains du jeune homme que j'ai connu au début, ce sont des mains d'ouvrier, ce sont des mains de travailleur. C'est quelqu'un qui touche à la matière autant qu'à la photographie. Et ça, j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, que ce soit un personnage entier comme ça, et en même temps, taiseux. Je ne crois pas qu'il soit timide, mais c'est comme s'il l'était. D'ailleurs, il n'est pas ici maintenant. Voilà.
Harry Mandelbaum, souvenez-vous de ce 1er mai 1985 ?
Oui. Je ne sais pas que c'est le 1er mai. Mais je crois que c'est une date qu'il a... Non, je crois que c'est un peu une date fictive qu'il a inventée, un peu, je pense. Parce que 1er mai, voilà. Je me souviens bien, c'est que Didier avait demandé à Marc une photo, une nouvelle photo, parce qu'il y a une photo qui est assez connue, qui a servi à l'affiche du film de Boris pour le film Portrait du peintre dans son atelier. Et Didier voulait une autre photo. Et ce qui s'est passé, c'est que Marc est venu dans l'atelier, mais pas cet atelier, entre-temps j'avais changé d'atelier.
Harrier, il fait beaucoup de photos. Parce qu'à l'époque, il habitait très près de là où j'habitais à Bruxelles. Donc on pouvait le voir souvent.
Il ressemblait davantage à un homme de peine qu'à un peintre. Enfin, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a daté le 1er mai. Comme une espèce de retournement de sens.
La différence entre un animal, surtout un étalon comme lui, et le type de rapport qu'on peut avoir avec des humains, c'est que à vous, je peux raconter des histoires. Et vous pouvez peut-être même me croire. Et moi, je peux croire les histoires que je raconte. Lui ne croit rien. Il sait autrement. Et pratiquement d'un jour à l'autre, je pense qu'ils ont la capacité de lire des signes que nous-mêmes, on ne maîtrise absolument pas.
essentiellement corporelle, une façon de se tenir, de regarder, ou une façon d'être. Et en général, il en sait plus sur l'état dans lequel je suis, quel jour, que moi-même.
Nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition que j'avais faite, et un peu avant de la faire, dans une galerie qui n'existe plus, qui est la galerie Polyide, qui se trouvait dans le Goulet de l'avenue Louise. Et Marc était un tout jeune étudiant en photographie à la Cambre. Il était très enfin, il faisait des photos de Socher, notamment, de Ferré, enfin bon, une série de personnes qui étaient accessibles à ce moment-là pour lui.
Charles Sienkiewicz, Arié Mandelbaum me parle de Léo Ferré qu'il photographie, c'est grâce à vous.
Donc Charles Sienkiewicz, je vais le voir à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles,
il était, oui.
Là où il a sa classe, et il me dit que quand Marc Trivier a 15 ans, il va chez lui pour le photographier déjà.
Trivier ?
Oui.
Que vous disiez Mandelbaum.
Arié Mandelbaum me dit que Marc Trivier photographie Léo Ferré.
Oui.
C'est grâce à vous ?
Oui.
Quand j'ai rencontré Marc, ben oui, c'était en 80, je ne sais pas quel âge il devait avoir aussi, à peine 20 ans.
Outsider ?
Outsider, c'est ça, oui. C'est ça. Hein, qu'il est allé retrouver dans des maisons spécialisées et dont il a fait le portrait et dont les portraits sont aussi expressifs que ceux des gens connus, des artistes, des gens qui ont des choses à dire. Voilà, mais peut-être que ces gens-là avaient aussi des choses à dire même s'ils ne la disaient pas.
Et j'en connais qui sont quasiment tous morts à l'heure où nous parlons.
Oui.
Comme les animaux de somme qu'on traîne à l'abattoir, qui vont là pour mourir.
Oui, oui, oui.
C'est la mort qui les rapproche.
Là, très très vite, à côté de ces portraits, j'ai vu ces arbres morts et j'ai vu ces animaux condamnés à l'abattoir. Je me souviens d'une phrase de Bertolt Brecht. Hein, si les vaches savaient discuter, l'abattoir n'en aurait plus pour longtemps. Ça m'a frappé quand j'ai vu ça. Je suis souvenu de cette phrase. Je ne peux pas la dire en allemand, désolé.
Et si on regarde les images de Marc Trivier, Georges Vercheval, avec des yeux analytiques de la photographie, que pourrons-nous dire et qu'est-ce qui les rassemble ?
Vous l'avez dit vous-même, cette idée de la mort, c'est évident. Idée de la mort, idée d'une vie qui a servi à quelque chose aussi, pour certains, quand même. Voilà. Mais aussi, qu'est-ce qui les rassemble ? Le fait qu'ils travaillent essentiellement en noir et blanc, le fait qu'ils n'attachent pas tellement d'importance à la technique, elle est correcte, sans plus, elle est bien, les photos sont bien, le fait que ce qui les rassemble, c'est le regard. Les regards que l'on découvre chez l'un, chez l'autre, sont toujours exceptionnellement justes, vrais, pour autant qu'on puisse imaginer ce que sont les personnages qu'il a photographiés. C'est toujours étonnant. Et il regarde l'objectif, c'est-à-dire qu'il nous regarde, nous qui regardons la photo. Et ça, c'est un choix aussi, c'est un choix important. Il y a quelques-uns qui ne le font pas, mais pour la plupart, c'est ça.
Je disais tout à l'heure qu'il avait commencé par photographier les gens très proches.
Derrière vous, je voyais Nathalie Sarraute et puis oui. Samuel Beckett. Là-bas.
Oui, oui, oui. C'est une photographie que je trouve étonnante, étonnante. Mais le sont toutes, hein. J'ai pas de préférence, il ne faut pas m'en sortir une, elles sont...
Enfin, très proches et à la fois, je me souviens déjà d'une photo d'Alechinski, de Jacques Socher, d'autres, de Léo Ferré qui était passé, je sais pas. Mais ça, voilà, le lien entre Sienkiewicz et Ferré, c'était ça, c'était là, voilà. Et c'est probablement que Marc était aussi déjà attiré par des personnages... avec une certaine un certain souffle, je dirais. Enfin, il y a aussi que je dis qu'il a fait des photos de uniquement de personnages, enfin d'écrivains, de peintres. Il y a quand même tout son travail sur les abattoirs.
Au début des années 80, ça faisait 10 ans que je connaissais en personne, Léo Ferré.
La photo d'un, ce qu'on appelle un malade. Il inventait une ville une situation ou même un prénom, enfin inventé, imaginé, par rapport à d'autres qui étaient très... Bon, Bacon, forcément, c'était Londres, ou Borges, c'était... Ben non, justement, c'était pas à Buenos Aires, je crois qu'il a... Enfin, je suis pas tout à fait sûr de ce que je compte, mais ça, je sais qu'il avait... Il y avait une espèce de switch dans les situations qui me fait penser à ça.
Comme il nomme son cheval Kafka.
Par exemple, voilà. Oui.
C'est amusant que dans un endroit comme celui-ci, c'est-à-dire un peu dans les marges culturelles, des enfants du village, c'est un nom qu'ils prononcent souvent depuis quelques années, parce qu'ils connaissent le cheval et donc ils parlent de Kafka. C'est très bien. Il s'appelle Kafka parce que ma fille s'appelle Milena.
Lui aussi, il a voyagé partout dans le monde pour faire des portraits des intellectuels surtout, des hommes. Par exemple, Samuel Beckett, Hans Hartung, il les a rencontrés. Il combine ces images avec des carcasses des animaux qui sont morts, avec des paysages. Et ce qui est très important dans la combinaison de toutes ces images, c'est la lumière. Parce que pour Marc Trivier, la lumière, c'est la mort.
Non, l'histoire du film, c'est ça. J'approchais de la cinquantaine et j'ai voulu faire un check-up. Alors, il y en a qui vont dans les hôpitaux, mais ça, je ne prends pas ce risque-là. J'ai voulu savoir combien j'étais contaminé. Et contaminé par l'état du monde. Avec mon travail de photographe, je peux pas savoir. Il est trop ancien et il s'est construit en se protégeant. C'est-à-dire, c'est pas que le monde extérieur et l'état du monde extérieur n'arrivent pas, mais il arrive extrêmement filtré. Je suis depuis trop longtemps engagé dans des questions sont très concrètes et très matérielles à l'intérieur de ce qu'aurait été la photographie pour moi. Et au contraire, quand je regarde un agencement d'images et de sons, bah on peut appeler ça un film aussi, pas nécessairement un film, mais les films sont construits ainsi. En général, après quelques minutes, je sais où j'ai la sensation de savoir si le type qui me propose cette forme me vend quelque chose ou pas. Et on vend beaucoup, hein. On vend une actrice ou le sourire de l'actrice ou la robe de l'actrice, ou on vend la lumière d'un lieu ou un lieu ou une voiture, couleur de voiture. Les agencements d'images et de sons sont des... Les formes sans pitié, c'est-à-dire que ce qu'elles racontent est très symptomatologique des intentions ou l'inconscient de quelqu'un qui les a assemblées. Et je m'étais dit que si je tentais ce type d'assemblage, surtout du son, là où la photographie... Ah, si elle était qu'immobile, je m'y suis habitué à son immobilité. Et puis, dans l'immobilité, il y a une durée, quand même. Le temps qu'on la regarde, ces choses-là, les choses de cet ordre-là. Mais elle est silencieuse. Les images photographiques sont effroyablement silencieuses. Elles ne disent rien. Et je me suis dit que si j'agençais du son et des images, peut-être je saurais.
Effectivement, il y a dans les archives du musée et les personnes qui ont pu être mises à l'honneur dans les éditions précédentes, on a des grands noms, donc notamment Marc Trivier qui est exposé dans la chapelle, puisque je pense que c'est en 84, c'est lui qui a reçu le prix national photographie ouverte.
Où j'en suis? Combien je suis contaminé par l'état des choses ou pas? Parce que des agencements d'images et de sons, on en voit beaucoup, tout le temps. Et aussi parce que je pense que il me semble que celui qui compose des formes, je le lis, moi, plutôt comme une caisse de résonance du monde et de ce qui circule dans le monde, qu'on appelle ça monde ou réel, en tout cas, la manière dont les choses sont structurées autour de nous, avec les nœuds, les contradictions, les possibles, les ouvertures, les utopies ou les non-utopies. Celui qui compose est une sorte de caisse de résonance de l'état du monde. Et quand on travaille à ce qu'on appelle un montage, et c'est pour moi différent de la photographie, les vitesses qui sont convoquées sont particulières. Je vais simplifier, je vais dire qu'elles sont de l'ordre du goût et du dégoût. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles on a un goût, un agencement pour lequel on a un goût, une durée, un raccord de plan, un rapport d'un son et d'un type d'image. On a l'impression que là, ça va, qu'il se passe quelque chose. Et on a aussi du dégoût. C'est-à-dire l'impression que là, c'est infâme. Et si on fait ce rapport-là, cette contraction-là, c'est infâme. Et le goût n'est pas un absolu, hein. C'est-à-dire, il est extrêmement lié à des personnes. Je veux dire, je dis pas que j'ai bon goût, voilà, mais j'ai un goût. Et là, on se rend compte qu'on a un goût. Il y a un mode de rapport entre les choses, ou de durée, ou avec lesquelles on a des affinités. Et un type de rapport avec lequel on est très très mal à l'aise. Et plus que ça. Ça veut dire que si on fonctionne au goût et au dégoût, donc à des vitesses quand même assez radicales, en fait, on ne sait pas exactement ce qu'on est en train de faire. Et j'aime beaucoup ce que... Alors, c'est pas vraiment une phrase d'Adorno, on dirait une note, ou je sais plus si c'est pas le titre d'un chapitre. Il dit « faire des choses dont nous ne savons pas ce qu'elles sont ». Ça, c'est une conception de la composition des formes que j'aime beaucoup. Bonjour.
Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il a vraiment un sens de la lumière qui est assez particulier, la façon dont il traite ses tonalités, comme il regarde la lumière. Et puis il est vraiment sorti, je pense que maintenant il montre beaucoup son travail sous forme de planche contact. Et ça donne vraiment une autre dimension, je pense, à ces images. On sort vraiment de l'image qu'on va agrandir, qui est un objet, l'image un peu sacrée comme ça. Et ici, le fait de les laisser ensemble, ça crée quelque chose de plus cinématographique. Et où les images ne sont pas prises pour des images, des photographies uniques, mais elles fonctionnent par la façon, je dirais même pas dont elles sont mises ensemble, parce que c'est vraiment son film qui est comme ça. Et je trouve aussi une grande honnêteté dans cette façon de faire, parce qu'il y a beaucoup de photographes, ils ne vous montreront jamais leur planche contact, parce que c'est quelque chose de très intime. Où tout le monde fait des erreurs, il y a toujours des photos qui sont moins bien, tandis qu'ici vraiment c'est un peu une désacralisation de l'image unique. Et en même temps, enfin, il y a une grande poésie dans ces images, hein, beaucoup la nature, sa relation à la nature.
Bonjour.
Bonjour.
puis l'autre, peut-être l'autre raison, c'est que je suis resté quand même, j'y tiens absolument, je suis resté au contact avec des gens plus jeunes que moi. Si on m'invite dans une école, je suis ravi. Pas tant parce que j'aurais quelque chose de particulier à leur raconter que parce que ça me permet aussi de voir ce qu'eux racontent, dans quoi ils sont, c'est quoi qui les préoccupe, c'est quoi l'état du monde dans lequel ils avancent. Ça va ? Et je me suis rendu compte que petit à petit, parce que ça ne s'est pas fait d'un coup, c'est qu'une série de choses dont je parlais qui pour moi étaient incontournables n'éveillaient plus rien, que quelque chose avait changé, sur lequel j'ai pas de nostalgie. En ce qui concerne en tout cas la photographie. Parce qu'on est passé à un nouveau mode de production d'images. Le numérique a quand même changé.
Un jour, j'ai été interpellé en tant que directeur de musée, il y a longtemps, par la Fondation Roy-Baudouin, qui demandait à tous les musées s'il y avait une proposition d'un achat important à faire, d'une œuvre majeure qu'ils souhaitaient pouvoir acquérir et dont ils n'avaient pas les moyens de faire. Et moi j'ai dit oui, ça m'intéresse, mais ce ne serait pas une œuvre, c'est un ensemble de photographies de Marc Trivier. C'était ma première grosse acquisition, la Fondation Roy-Baudouin m'a suivi. Et voilà, ils sont là.
Ce qu'on voit, c'est appartient à tout.
Pas tout.
Mais beaucoup.
Ce sont 100 photos qui sont arrivées ici. C'était énorme.
Marc Trivier, on me dit que vous êtes ami avec Robert Wilson.
C'est quelqu'un de très fidèle en amitié, Wilson. Je crois que j'avais 20 ans quand je l'ai connu. Et c'est quelqu'un qui donne des nouvelles au moins une fois par an. Or, c'est quelqu'un qui a une vie un peu agitée. Il travaille beaucoup, il est tout le temps en voyage. Il y a 25 ans,
non, ça va, je vais le mettre ici, ça va.
Il a envoyé en début d'année une espèce de fascicule qui était épais comme un petit bottin de téléphone, et c'était son emploi du temps de l'année, c'est-à-dire si le 23 février il se trouvait à Düsseldorf dans tel théâtre, le 23 ou 27, le 28 il était à Stockholm pour une conférence dans tel endroit et dans tel hôtel, etc., etc. C'était assez amusant de recevoir un emploi du temps aussi, aussi conséquent, qui était aussi le prétexte à se retrouver, à se croiser dans le tissage de ces déambulations. Il était possible de venir intercepter l'électron libre où il sonne.
Le musée de la photographie est Charleroi jusqu'au 22 avril. Avec entre autres, Boîte Noire, Bénédicte Loyenne. La lumière et les choses, Marc Trivier. Et prix national photographie ouverte, Brigitte Grignet. Avec Christelle Rousseau, Georges Vercheval, Bénédicte Loyen et Brigitte Grignet. Et rencontre Marc Trivier, printemps 2011. Avec les voix de Jacques Socher, Harry Mendelbaum, Charles Simkovitch et Marc Trivier. Musée de la photographie à Charleroi jusqu'au 22 avril, par Thierry Genico. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Moi, je viens d'un vieux monde. Je me suis rendu compte à un moment que je venais d'un vieux monde. Celui où il y avait... D'abord, il y avait cette chose étrange qui est le négatif. Que le monde passe par... Le monde photographié passe par une inversion à un moment donné, qui en plus est transparente, qu'il faut rendre à la lumière pour l'imprimer. Ce négatif ouvre un tas de rêveries.
Thank you.